Bonjour à tous. C'est bien de pouvoir ce matin prendre la parole après le temps que nous avons eu, le temps où nous prions les uns pour les autres, où nous prenons la Sainte Cène ensemble, ce temps où nous vivons notre unité, parce que c'est quelque chose de particulièrement important, comme nous allons le voir ce matin. Ce matin, je vous propose de retourner voir les Corinthiens. Nous retournons les voir parce que j'avais commencé une série de prédications sur la première lettre aux Corinthiens. Je ne sais pas si vous en souvenez. En fait, je suis sûr que le nombre de personnes qui s'en souviennent est assez peu nombreux parce que c'était entre novembre 2013 et février 2016. Et quand je vous regarde, beaucoup sont arrivés depuis. Donc, avant de reprendre la série là où nous en étions, je me suis dit qu'un petit résumé s'imposait. Un résumé des quatre premiers chapitres de la première épître aux Corinthiens. Vous êtes partant ? Elliot, mon assistant ce matin, est-ce que tu peux afficher le premier écran ? L'épître commence ainsi. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par appel, par la volonté de Dieu et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel. Voilà. Nous avons une lettre que Paul écrit à une église, l'église qui se trouve à Corinthe, Corinthe en Grèce. C'est une grosse église, une église importante. Il y a eu une grosse correspondance entre Paul et cette église, une correspondance difficile. Les relations, je pense, étaient un peu tendues entre Paul, l'apôtre, et cette église. Et c'est pourtant cette église, c'est une église que Paul aime parce que c'est une église qu'il a fondée. C'est lui qui était là au démarrage de cette église. Mais au moment où Paul écrit cette lettre, cette église connaît désordre, beaucoup de désordre. Il y a un cas d'inceste, c'est une église dans laquelle les membres se font des procès les uns envers les autres, une église dans laquelle plusieurs fréquentent des prostituées et ne s'en cachent pas. Voilà, c'est du lourd ce qui se passe dans cette église. Et dans cette épître, Paul va prendre tous ses problèmes de front. Mais avant ça, il y a un premier gros problème sur lequel il aimerait travailler et sur lequel il consacre les quatre premiers chapitres. C'est ce que nous allons voir. Mais avant ça, quand même, il prend le temps d'avoir un temps de louange et de remercier Dieu. « Je rends grâce, écrit-il, je rends grâce à mon Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous êtes devenus riches de tout, de toute parole et de toute connaissance, puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vous affermira ainsi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on connaît le contenu de l'Épître aux Corinthiens, quand on comprend les problèmes qu'ils avaient, on peut s'étonner que Paul commence comme ça, par remercier Dieu, louer Dieu pour ce qu'il fait dans cette Église. Et pourtant, il prend ce temps de s'émerveiller, ce temps de les voir riches, de voir qu'ils ont une vie riche, que leur Église est belle. Et je vous invite à garder ça en tête. Est-ce que nous aussi, nous savons remercier Dieu pour ce que nous voyons de beau ? Quand bien même il y a quelque chose de difficile dans une église ou dans des relations qu'on peut avoir avec d'autres, quand bien même il y a quelque chose de difficile, est-ce qu'on est capable de voir ce qu'il y a de beau ? Ce que le Seigneur est en train de faire dans ces personnes. Gardons ça en tête. Mais à présent, on attaque le problème, le point sur lequel Paul veut reprendre les Corinthiens avant d'attaquer tous les autres. Les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes. J'entends par là que chacun de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Le Christ est-il divisé ? De là où il est, Paul a dû recevoir la visite d'une délégation. Les gens de Chloé, est-ce que c'était sa famille, ses esclaves qui sont venus le voir ? Sans doute pour lui apporter une lettre avec des questions auxquelles il va répondre, mais il lui donne aussi des nouvelles. Et dans les nouvelles qu'il lui donne, il y a quelque chose qui le choque. C'est ces divisions qui se trouvent dans l'Église. Et ces divisions qui se caractérisent ainsi, qu'il y en a qui disent qu'ils sont pour Paul, d'autres qui disent qu'ils sont pour Apollos, d'autres pour Céphas, et puis et ainsi de suite. Ça vaut le coup de comprendre un peu ce qui se passe et de faire un petit peu d'histoire. On a de la chance parce que dans le livre des Actes des Apôtres, on a l'histoire de cette Église, du début de cette Église. C'est en Actes 18, si vous voulez relire ça, vous pourrez le relire tranquillement chez vous, tout le chapitre 18. Paul est en train de faire un tour de la Méditerranée et de fonder des églises là où il passe, là où il trouve des croyants. Et quand il arrive à Corinthe, il rencontre deux personnes, un couple, Aquilas et Priscille. Et il s'entend super bien avec eux. Ils font le même métier, hein. Paul était fabricant de toiles de tente, hein. Aquilas et Priscille, c'est leur cas également. Donc, ils sympathisent, ils passent beaucoup de temps ensemble. Ceux qui sont familiers du Nouveau Testament et des Actes des Apôtres savent qu'ils vont collaborer souvent, ils vont se retrouver souvent, Paul, Priscille et Aquilas. En tout cas, c'est là leur première rencontre. Et c'est ensemble qu'ils commencent par travailler à Corinthe. Et donc, à Corinthe, Paul fait ce qu'il a l'habitude de faire. Tous les jours, il va à la synagogue, là où se rassemblent les Juifs, et il explique. Il explique le message de Jésus-Christ. Et là, il rencontre une opposition particulièrement musclée de la part des Juifs qui résistent, qui ne veulent pas entendre parler de cette nouvelle voie, comme le décrit le livre des Actes des Apôtres. Il réfléchit avec cette opposition. Mais il reçoit la conviction qu'il faut qu'il reste dans cette ville, qu'il faut qu'il reste plus longtemps. Et cette conviction, elle est confirmée par Dieu qui dit « J'ai dans cette ville un peuple nombreux, un peuple qui m'appartient. » Alors Paul reste là. Il va rester pendant un an et demi et il se tourne vers les non-juifs et l'évangile prend. L'Église grandit malgré l'opposition des populations juives qui se trouvent là. L'opposition qui est forte à tel point qu'il y a un complot, une fausse accusation, que tout le monde se retrouve devant le tribunal du gouverneur romain. Mais ça n'arrête pas l'Église. Au bout d'un moment, quand il estime son temps terminé, Paul s'en va avec Priscille et Aquilas pour aller dans une autre ville. Il retourne à Éphèse. Et l'Église reste là. À Éphèse, ils se séparent, Paul continue son voyage et il laisse Priscille et Aquilas avec l'Église d'Éphèse. Et c'est là qu'on rencontre Apollos. À Éphèse, Priscille et Aquilas rencontrent Apollos. Apollos qui parle avec assurance de Jésus, qui est très éloquent, qui parle bien, et qui connaît très bien les Écritures. Et là, Priscille et Aquilas disent, lui, il faut l'envoyer à Corinthe. À Corinthe, où il y a tous ces Juifs qui sont en opposition, qui n'arrêtent pas de nous contredire, c'est là-bas qu'il faut l'envoyer. Et eux, sur la base de l'Écriture, il va pouvoir leur répondre. Donc, il va à Corinthe, et on nous dit, il est écrit que dès son arrivée, il fut d'un grand secours pour les croyants, car il réfutait en public les arguments des Juifs et montrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Voilà, résumé le chapitre 18 des Actes des Apôtres, la naissance de l'Église et l'arrivée d'Apollos pour donner un deuxième souffle à cette Église qui est dans l'opposition. Apollos, un gars brillant, éloquent et utile pour cette église au moment où il arrive. C'est génial pour l'église. Sauf que, et c'est ce que nous avons lu, du coup, il y en a qui disent, oh ben, on va se ranger derrière Apollos. Nous, on est de l'école d'Apollos. On n'est plus de l'école de Paul. Il y en a qui continuent à être attachés. Nous, on est de l'école de Paul. Et puis, du coup, ça ouvre la porte. Nous, on est de l'école de Céphas, Pierre, le disciple de Jésus. Et puis, certains, oh, moi, j'appartiens au Christ seulement et tout ça, ça ne m'intéresse pas. À tel point qu'il y a une espèce de guerre de partis où chacun a son école de pensée, un peu comme chez les Grecs entre les différents philosophes. Et Paul, ça ne lui va pas. C'est le premier point sur lequel il veut les reprendre. Un chrétien n'entre pas là-dedans. Qu'est-ce que répond Paul ? Déjà, Paul répond que lui, parmi eux, j'ai jugé bon, parmi vous, de ne rien savoir d'autre que Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Il rappelle que lui, il a prêché Jésus-Christ, Jésus-Christ uniquement, Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ mort pour les péchés des hommes, pour les fautes de chacun, mort pour que nous soyons pardonnés. Jésus-Christ mort pour prendre la honte de ceux qui ne peuvent pas se tenir devant Dieu. Prendre sur lui cette honte afin que nous soyons réconciliés à Dieu. Et il s'est concentré sur ça dans sa prédication. Et pourquoi ? Elliot, s'il te plaît. Tu peux avoir la suivante ? Pourquoi ? Eh bien, il l'écrit. Mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai voulu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des tout petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne pourriez pas parce que vous êtes encore charnels. Les Corinthiens trouvent que ce que Paul leur a dit était simpliste. Paul leur rappelle, vous ne connaissez rien, vous étiez des bébés, je n'ai pu que vous donner du lait. La base de ce qu'il faut pour devenir chrétien, pour rentrer dans ce mouvement, pour rentrer dans cette vie avec Dieu. Et d'ailleurs, ajoute-t-il, si vous vous disputez encore aujourd'hui, c'est bien la preuve que vous êtes encore bien petit et que vous auriez encore bien besoin de ce lait avant d'attaquer les choses plus solides. Les Corinthiens, ils ont envie d'avoir quelque chose de plus, ils ont envie que ça en jette, ils ont envie de clouer le bec à leurs opposants. Mais Paul leur rappelle, il n'y a pas d'école d'apôtre plus sage qu'un autre, il n'y a pas de sagesse. Au centre, il y a Christ, Christ crucifié, lui seul qui nous réconcilie avec Dieu. Et il n'y a rien de plus grand. Et Apollos alors ? Pourquoi Apollos a-t-il appris autre chose ? Voici ce qu'écrit Paul. Qu'est-ce qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs. Par l'entremise desquels vous êtes venus à la foi, selon ce que Dieu a accordé à chacun. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui importe, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Apollos, il a pris la suite, comme dans un jardin, celui qui arrose prend la suite de celui qui a planté. Il poursuit le travail. Il poursuit le travail, mais surtout, celui qui est le plus important, c'est Dieu qui fait grandir. Ce n'est pas les jardiniers qui se succèdent. Celui qui plante et celui qui arrose de son cœur. Mais chacun recevra son propre salaire selon son propre travail, car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Voilà l'optique dans laquelle Paul et Apollos ont travaillé. L'optique d'être serviteur, non pas de se faire briller, mais de servir et de servir Dieu, Dieu qui les envoyait. Et c'est de Dieu qu'ils tirent l'approbation, qu'ils tirent l'honneur, en sachant qu'ils font sa volonté. D'où la conclusion de Paul. Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. Le Christ n'est pas divisé. Aussi, l'Église de Corinthe ne peut être divisée. Voilà le résumé de ce que Paul dit aux Corinthiens. Et après ça, eh bien, il peut attaquer les autres problèmes, peut-être plus visibles, en tout cas plus concrets. Mais à la base, il y a cette question d'unité qui doit être vécue dans l'Église. C'est la chose la plus importante que Paul écrit aux Corinthiens quand il commence cette lettre. Alors, c'est ce que Paul écrit à cette église au 1er siècle, mais la question qui nous intéresse, c'est est-ce que ça sert pour aujourd'hui? Est-ce que ça nous sert à nous pour aujourd'hui? Est-ce que c'est une parole que nous avons besoin d'entendre? Est-ce qu'il y a des divisions dans l'église? C'est de ça qu'il s'agit. Et que Paul veut combattre les divisions. Aujourd'hui, Christ est-il divisé? Quand je lis ce texte, quand je l'ai prêché la dernière fois en 2013, j'ai été interpellé parce que l'Église, aujourd'hui, institutionnellement, est morcelée. Nous sommes une communauté baptiste, évangélique, protestante. Il y a des communautés catholiques à Clermont-Ferrand, un diocèse catholique, il y a des orthodoxes, il y a d'autres protestants. Ce n'est pas propre à Clermont-Ferrand, c'est comme ça partout dans le monde. Pourtant, Jésus a insisté sur l'unité de son Église. Qu'en penser? Que penser de cette situation? Je crois qu'on ne va pas la résoudre. On ne va pas la résoudre. Les différences sont profondes. Mais quand même, je pense qu'on peut le vivre de façon différente. Nous, concrètement, aujourd'hui, nous pouvons le vivre de façon différente, en évitant de mettre une étiquette en avant, éviter de dire « moi je suis baptiste » ou « je suis évangélique » ou « je suis protestant » avant de dire « je suis chrétien ». C'est ça le plus important. Je suis chrétien, comme mon voisin catholique est chrétien. Ou ce gars dans la rue d'à côté qui est orthodoxe. Chrétiens, nous sommes un. Nous l'avons chanté encore la semaine dernière en contemplant ce que Dieu fait dans la partie de l'Église qui est persécutée. Nous sommes une seule Église. Et nous sommes une seule Église. Nous sommes un, non pas par nos propres efforts, mais parce que Dieu l'a dit. Et ce n'est pas notre choix. Ce n'est pas nous qui faisons l'Église. Nous sommes dans l'Église de Dieu. Alors même si nous n'arrivons pas à nous réunir, à vivre l'Église avec ses autres frères et sœurs, apprenons le regard de Dieu. Il dit que son Église est une. Changeons de regard pour adopter son regard. C'est un premier lieu dans lequel il peut y avoir des divisions dans l'Église au niveau institutionnel, mais même dans une même Église, au niveau local ou national, dans une union d'Églises, on peut retrouver, peut-être comme à Corinthe, des écoles. Des personnes qui se déclarent de tel ou tel prédicateur, qui est fan de tel ou tel site web sur lequel il y a des méditations qui donnent du contenu chrétien. De tel ou tel institut de formation. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire dans notre église, dans les églises évangéliques, « Oh, moi, je suis de Vaux-sur-Seine. Ah non, moi, je suis de Genève. » Et on se revêt d'une étiquette. Moi, je suis plus ouvert que les autres. Moi, je suis plus fidèle que les autres. Et on peut comme ça appliquer ça à pas mal de sujets. Au don de l'esprit, à la fin des temps, à la création. On peut appliquer ça à la façon de vivre l'Église. L'exercice des dons, la place de la femme. On se planque derrière notre étiquette et on catalogue les autres avec la leur. Tous ces sujets sont des sujets très intéressants. Des sujets sur lesquels il est utile d'avoir une vraie réflexion et même une conviction. Mais ce n'est pas les sujets qui nous définissent en tant que chrétiens. Nous sommes pécheurs. Et nous avons besoin de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Nous sommes séparés de Dieu et nous avons besoin de lui, de son intermédiaire, pour nous réconcilier avec notre Créateur. C'est ça, le cœur de l'Évangile. Et nous aurions tort de l'oublier parce que on voudrait rentrer dans une école de pensée pour s'attaquer aux sujets secondaires ou même tertiaires, ou que sais-je. Deuxième façon de vivre des divisions, s'attacher à une école. Je crois qu'il y en a même une troisième. J'aimerais prendre un exemple, un souvenir. Je me souviens d'un pasteur qui, pendant l'été, avait pris 2 mois de vacances et avait laissé un autre pasteur prendre soin de sa communauté pendant ces 2 mois. Et pendant ces 2 mois de vacances, l'Église avait vécu des choses formidables. Les gens avaient pris conscience de ce que c'était qu'être chrétien, voulaient avancer. Et spontanément, ils s'étaient donné des rendez-vous pour se retrouver. Et puis chacun se stimulait, chacun allait plus loin. Des belles choses se passaient pendant l'été. Et en septembre, le pasteur de cette communauté est revenu, il est rentré, il a vu ces belles choses et il a vécu ça comme une déception. Une déception parce que c'est ce qu'il voulait. Depuis des années, c'est ce qu'il prêchait, ce pourquoi il travaillait. Ça ne prenait pas. Et il y en a un autre qui arrive et hop, comme ça prend instantanément. J'aimerais surtout ne pas juger ce pasteur, parce que je me rends compte que je peux être comme ça. Et est-ce que nous ne sommes pas comme ça? Quand nous passons du temps avec quelqu'un qui ne connaît rien à Dieu, à l'Évangile, et puis on arrive à avoir des discussions, et puis cette personne est intéressée, et puis on l'invite à l'église, et là, il rencontre d'autres peut-être, il accueille, avec qui il accroche mieux que nous. Des personnes qui vont l'amener plus loin, qui vont peut-être l'amener jusqu'au baptême, jusqu'à ce pas déterminant, sans nous. Des personnes qui vont l'enseigner, lui faire passer des câbles, lui faire comprendre des choses qu'on aurait peut-être expliquées différemment, des choses peut-être qu'on n'est pas, avec lesquelles on n'est pas tout à fait d'accord. Des personnes qui vont l'équiper, l'aider à servir, l'envoyer vers son ministère, alors qu'on aurait bien voulu qu'il reste avec nous pour servir Dieu à nos côtés. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous fait peur. Et pourtant, c'est quelque chose qui devrait nous réjouir. Comme Paul a planté, Apollos a arrosé, quelqu'un d'autre et sans doute les a enseignés, c'est Dieu qui fait grandir dans l'église de Corinthe. C'est la même chose ici. Et ici où nous voulons faire des disciples, il faut que nous soyons ouverts à ça. Au lieu de dire « j'aurais tellement voulu être là pour ce pas déterminant », nous sachions dire « c'est génial, Dieu est à l'œuvre et il a placé dans mon église, à côté de moi, quelqu'un pour faire ce pas déterminant ». Souvenons-nous. Souvenons-nous que nous sommes des ouvriers avec Dieu, des ouvriers de Dieu. C'est lui qui nous a donné des qualités, des compétences, qui nous a donné de faire des choses. Alors mettons les dons qu'il nous donne à son service, mais c'est lui qui fait grandir. Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. Cette exhortation de Paul, c'est vraiment la chose la plus importante qu'il avait à leur dire pour commencer. Gardons-le en tête quand nous lirons la suite de la lettre aux Corinthiens. Gardons-le en tête, nous aussi, dans notre vie d'église. C'est ça auquel il faut nous consacrer, l'unité. L'unité parce que Christ n'est pas divisé. Parce que Christ est crucifié, c'est le plus important. Parce que Christ est notre maître et nous voulons lui obéir. Et souvenons-nous du début de la lettre, des remerciements et de cette promesse de Paul. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est avec nous pour relever ce défi parce que nous, son Église, nous sommes ses témoins. Je vous invite à la prière. Seigneur, l'unité, ce n'est pas pour faire bien, ce n'est pas pour être plus efficace, parce que tous ensemble, on va plus loin. L'unité, c'est parce que tu l'as voulu, que tu l'as décidé, que tu l'as déclaré. Et Seigneur, je te prie que tu nous aides à rentrer dans l'unité, à saisir que ce n'est pas nous qui nous unissons les uns aux autres, qui nous choisissons, mais que c'est toi qui nous as choisis une fois pour toutes et qui nous met ensemble. Aide-nous à vivre cela, à vivre l'Église que tu as décidée. Et ainsi, par notre obéissance, et l'amour que nous vivons, nous puissions te rendre gloire. Nous te prions au nom de Jésus.